À tous pour l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine. Ce soir, je suis tout seul pour vous parler. C'est Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix et du collectif Marseille en résistance, Marseille-Gaza en résistance. Je vais parler de plein de sujets ce soir parce que l'actualité est très riche. Je vais commencer par Georges Ibrahim Abdallah. Parce que les événements se précipitent et on souhaite tellement, tellement, tellement fort qu'ils se précipitent dans le bon sens. Vous savez que sa demande de libération a été jugée au hasard le 7 octobre 2024. Mais quand on a eu le verdict en novembre, ce verdict était favorable. Le tribunal prononçait sa libération. Immédiatement, le parquet antiterroriste, ça ne s'invente pas, a fait appel. Et il a fait appel sur un sujet complètement farfelu, puisqu'il ne remettait rien en cause du jugement. Il disait simplement que Georges était dangereux s'il était remis en liberté, ce qui est tout sauf un élément juridique. Dans une affaire aussi grave, puisque je rappelle que Georges Abdallah est en prison maintenant depuis 40 ans. Et depuis novembre 2024, ça fait 40 ans maintenant de prison, donc maintenant 40 ans et 2 mois. Et donc, le résultat de cet appel, on l'aura en principe le 19 décembre, à moins qu'il y ait encore un nouveau tour de passe-passe qui diffère la décision définitive. Mais voilà. Pour avoir parlé avec Georges, la dernière fois que je l'ai vu à Lannemezan, c'était le 10 octobre. Pour lui avoir parlé depuis 2 fois par téléphone, on le sent très tendu et en même temps, je crois qu'il espère extrêmement fort. Donc on doit véritablement tout faire parce que la cause de Georges, c'est la cause de toutes les luttes. C'est la cause de la lutte pour la Palestine, c'est la cause de la lutte pour une société débarrassée du capitalisme, c'est la lutte contre une effroyable machination judiciaire. Et pour toutes ces raisons, il faut que Georges sorte au plus vite. Donc voilà, enfin, j'ai l'espoir que c'est la dernière fois que je parle de Georges en tant que prisonnier, que la prochaine fois que je viendrai à ce micro, on pourra en parler comme... d'un homme libre, alors d'un homme libre qui va aller où? Et c'est un peu le deuxième sujet que je vais discuter, la question du Liban. Georges est un communiste libanais, il a commencé sa lutte pour un monde meilleur au Liban, pendant la guerre civile libanaise, où il a combattu dans les rangs du Front populaire de libération de la Palestine, puis... la lutte s'est exportée en Europe et en France. Et une de ses sœurs lui disait « Ne reviens pas au Liban, c'est trop dangereux. » On comprend bien ce qui se passe. Mais bon, Georges, je crois que c'est sa volonté et il ira dans son pays. Mais il faut parler du Liban. Le prétexte qui a été avancé pour pulvériser le Liban, comme Gaza a été pulvérisé, est dérisoire. Mais les Israéliens... les dirigeants israéliens, comme rien ne les arrête, puisque personne ne les arrête, puisque l'Occident est complice de tous leurs crimes de façon éhontée et les couvre. Ils ont commencé par assassiner un assez grand nombre de membres du Hezbollah avec des beepers piégés ou des appareils de téléphone piégés. Et puis, ils ont commencé à raser le Liban, à bombarder avec des bombes incroyables à la fois toute la zone des villages frontaliers, toute la banlieue sud du Liban, de Beyrouth, qui est censé être un quartier chiite, mais les bombardements ont touché absolument toutes les zones du Liban. Des villages ont été bombardés au nord. Et puis, il n'y a pas que des membres du Hezbollah qui ont été visés. Deux dirigeants du FPLP ont été assassinés. Un dirigeant du Hamas a été assassiné. Donc le but des Iraniens est bien de détruire tout ce qui pourrait leur être hostile au Liban. Et on voit bien que René, avec cette complicité absolue de l'Occident, ce qui a été leur volonté lors des deux grandes invasions du Liban en 1978 et en 1982, c'est-à-dire installer un régime fantoche au Liban, avec les phalanges libanaises, il faut bien sûr les nommer, qui seraient complètement dociles à l'égard d'Israël et qui permettraient le renouveau de cette période coloniale où pendant 20 ans, le Sud-Liban a été occupé par les troupes israéliennes et les populations du Sud-Liban, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, contraintes de devenir des travailleurs immigrés dans le nord d'Israël. Le projet, c'est celui-là. Est-ce qu'il va pouvoir aboutir ? On a bien vu que le cessez-le-feu n'est qu'un faux cessez-le-feu, puisque Israël n'a pas hésité à plusieurs reprises à le violer, que pour l'instant, les retours du million de Libanais qui ont été déplacés de leur ville et de leur village se fait quand même au compte-gouttes. J'ai oublié de dire que parmi les gens qui ont été assassinés au Liban, il y a eu par exemple le maire de Nabatieh, une ville de 80 000 habitants. Donc les Israéliens ne tuent pas que Nasrallah, ils ont tué absolument tout le personnel politique qu'ils ont pu atteindre. Donc que le Liban ne devienne pas un État vassal, c'est un enjeu fondamental. Que le Liban n'éclate pas, que Israël ne réussisse pas à diviser la population du Liban, on ne critiquera jamais assez le régime colonial français qui, en 1943, a instauré, en donnant l'indépendance au Liban, le confessionnalisme au pouvoir et le fait que 17 religions différentes peuvent être inscrites sur la carte d'identité au Liban. Et ils sont très largement responsables du clanisme qui a présidé au Liban avec des lois complètement baroques qui obligent que le président de la République soit maronite, que le chef du gouvernement soit sunnite, que le président de la Chambre des députés soit chiite. Il faudra qu'on ait un seul Liban laïque et démocratique et décidé à soutenir tous les peuples de la région pour leur libération. Je vais parler maintenant de la Syrie. C'est difficile de donner du noir et du blanc sur la question syrienne, mais je vais quand même commencer par enlever des idées reçues. D'abord, quand la dynastie des Assad, avec le père, prend le pouvoir il y a maintenant plus de 50 ans, c'est un coup d'État à l'intérieur du parti Baas, mais c'est un coup d'État clairement de droite et clairement soutenu par les États-Unis. La fiction que ce régime était progressiste et soutenait les Palestiniens, c'est une fiction. Bien sûr, l'État du Baas assurait des formes d'éducation, des formes de protection sociale, mais ça, dès le début, était un régime barbare et un État policier. Il y avait en Syrie, au moment où éclatera l'insurrection de 2011, 19 services de sécurité, près d'un million de personnes qui travaillaient dans ces services de sécurité. Dire que la Syrie soutenait la Palestine, non. Il ne faut jamais oublier qu'en 1976, les Palestiniens alliés à la gauche libanaise sont sur le point de gagner la guerre civile, qui a commencé un an avant, et l'armée syrienne intervient aux côtés des phalangistes et les prend à revers. Et d'ailleurs, j'en parlais à Georges Abdallah qui me disait la difficulté qu'il y avait de se décider à combattre les Syriens parce que théoriquement, ils n'étaient pas des ennemis. Si en 1982, le grand massacre de Sabra et Shatila a été fait par les phalangistes avec le soutien israélien. Quelques années avant, le grand massacre du camp de Tel el-Zatar, il est fait par les phalangistes avec le soutien des troupes syriennes. On n'oubliera jamais que en 1983, alors que déjà les Palestiniens, après, juste avant Sabra et Shatila, ont évacué Beyrouth, Arafat est encerclé dans le nord du Liban, à Tripoli, par des troupes syriennes ou alliées à la Syrie. Et donc son exode, le fait que la direction palestinienne soit obligée de s'exiler à 3000 km de la Palestine, c'est le régime syrien qui l'a imposé. En 2011, c'est incontestablement une insurrection populaire qui éclate partout en Syrie, qui va libérer des territoires importants. Mais assez rapidement, cette insurrection va être gangrénée et infiltrée par des salafistes ou des djihadistes. Il va y avoir, le régime syrien va être sauvé parce qu'il avait un soutien populaire extrêmement faible. Il va être sauvé par l'intervention de ses alliés, l'armée russe qui a des bases à Latakia, à Tartous, qui va essentiellement utiliser l'aviation et donner ses avions aussi à l'armée syrienne, l'Iran et au sol le Hezbollah. Pourquoi le Hezbollah, qui avait quelque part était apparu au Liban comme un héros pour avoir expulsé les troupes israéliennes après 20 ans d'occupation, pourquoi vient-il sauver le régime syrien? Ben, pour avoir cette espèce de couloir qui le reliait à la maison mère qui était l'Iran. Mais ce sont principalement ces troupes qui vont écraser dans plusieurs régions les insurgés. Et pendant des années, puisque l'insurrection syrienne c'est 2011, pendant des années, le dernier îlot qui échappe aux troupes syriennes, c'est autour d'Idlib. Ça a été au départ un bastion des insurgés démocrates, mais assez rapidement, ce bastion a été infiltré par diverses forces djihadistes. Il va se passer aussi en Syrie cette question sur laquelle il y a débat, et qui est l'installation des Kurdes, du parti kurde allié au PKK turc, dans la Rojava. Un certain nombre de démocrates syriens accusent le YPG, l'allié du PKK, d'être lié au régime des Assad. Je crois très honnêtement que ce régime n'avait pas le choix. Il lui fallait assurer, parce qu'il était complètement encerclé par les djihadistes, il lui fallait assurer un pouvoir sur la région où les Kurdes étaient majoritaires. S'il a pris des armes ou il s'est allié à qui voulait bien s'allier contre lui, étant donné que la Turquie et l'armée pseudo-syrienne qu'elle a créée voulaient à tout prix la liquidation de ce bastion kurde. C'est avec des armes américaines que les Kurdes ont résisté à une offensive majeure des djihadistes, mais c'est eux qui ont défait les djihadistes à Kobané et qui plus tard, au moment de l'écroulement de l'État islamique, vont prendre la grande ville de Raqqa sur l'Euphrate. Ils n'ont jamais imposé une quelconque autocratie. Ils se sont comportés en démocrates pluralistes. Ils ont respecté la mosaïque d'identité et de religion qu'il y avait là-bas. Donc aujourd'hui, il ne fait pas de doute que ce qui vient de se passer, les menaces, et c'est mon point de vue, je le livre, il faut soutenir les Kurdes de la Rojava. Il y a eu à Idlib un certain pluralisme qui a été respecté quand les djihadistes sont arrivés, parce que leur chef, qui maintenant vient de prendre le pouvoir, s'est distancié d'Al-Qaïda, s'était totalement distancié de l'État islamique et a réalisé que pour prendre le pouvoir en Syrie, il fallait respecter à la fois les démocrates, les chrétiens, les Kurdes. Et donc c'est un groupe composite qui a profité de l'énorme affaiblissement de la Syrie parce que son bras armé, le Hezbollah, était paralysé, parce que son pays allié, l'Iran, avait subi de terribles pertes avec toutes les attaques sur Téhéran et des assassinats Ismaïl Haniyeh, par exemple, commis en plein Téhéran. Et donc, les alliés du régime syrien étant très affaiblis, les insurgés ont lancé l'attaque. La rapidité avec laquelle, en 10 jours, ils prennent le pouvoir, en 1 jour, ils prennent Alep, et en 10 jours, le régime de Damas s'est complètement écroulé, montre que ce régime était incroyablement impopulaire et ne reposait en fait que sur ses alliés. On ne doit pas être stupéfait de l'énormité des crimes de guerre que les Assad ont commis. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. Il y avait un camp de concentration à Tadmor au-dessus de Palmyre. Il y a des sinistres prisons à Damas qui ont été ouvertes. Et aujourd'hui, parmi les libérés, on voit Tal Libanais arrêté en 1985 sur un checkpoint et qui était donc en prison depuis près de 40 ans. Mais il y a des milliers et des milliers de disparus. Il y a eu des cas extrêmement importants de torture. Et donc ce régime d'assassins, ce régime policier, ce régime terriblement dictatorial et clanique s'est écroulé, c'est une bonne chose. Il faudra juger tous les criminels de guerre de ce régime. Mais se pose bien sûr la question, qu'est-ce qui va advenir maintenant? Il y a des scénarios dans les pays voisins qui ont été négatifs. Quand les talibans prennent Kaboul, ils ont promis de ne s'en prendre à personne, et puis très rapidement, ils vont s'en prendre notamment aux femmes qui n'ont plus le droit d'étudier, et ils vont s'en prendre à toutes les formes de démocratie ou de soupçons d'occidentalisme. Quand il y a 40 ans, non, 45 ans, il y a eu la révolution islamique en Iran, ces plusieurs forces qui s'étaient alliées pour renverser le régime dictatorial du Shah, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est imposée et qui a éliminé par la force et la violence toutes les autres, puisque très rapidement, les partisans de Khomeini ont jeté en exil Bani Sadr, qui était le premier président de la République, ont pendu Gobzabeh, ont décrété clandestine et dissous toutes les associations de gauche, et c'est la dictature de la République islamique qui s'est imposée. Ça, ce sont des modèles qui montrent que un régime pluraliste issu d'une révolution, c'est pas gagné. Alors c'est pas gagné, mais c'est pas impossible. Donc soutenir à toute force les forces pluralistes et démocratiques aujourd'hui en Syrie, faire que le retour des millions de personnes qui se sont exilées en Turquie, en Allemagne, en Suède, se fasse dans une perspective pluraliste et démocratique, c'est ça qu'on doit absolument soutenir. Soutenir aussi la Syrie parce qu'elle est agressée par Israël. On n'oubliera jamais que le Golan, qui est un territoire syrien, est occupé depuis 1967, que toute la population syrienne, à l'exception de quelques druzes, en a été chassée, et que là, dès que le régime d'Assad est tombé, en violant toutes les règles du droit international, Israël a occupé la zone tampon et a effectué plus de 300 bombardements pour annihiler tout ce qui pouvait rester d'une armée qui ne s'est pas battue, l'armée syrienne. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Israël ne veut à ses frontières que des États vassalisés et des États incapables de venir en aide au peuple palestinien martyrisé. Donc dans notre soutien à la démocratie syrienne, il y aura aussi notre soutien à un pays dont une partie est occupée et à un pays qu'Israël veut vassaliser. On va faire un premier instant de musique. القدس
Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Irtaqadou, qatli, qasatuna, takhayalou, tahtimi, hilmina. انهم سينسوني رايحه حبي قدسي 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 مدينه سماويه تناور ليالي من اجل الرجوع الى بيتنا اهدي حياتي اهدي روحي قدسي 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 القدس القدس Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Ils ont cru pouvoir tuer notre histoire, briser notre rêve. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi, ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. Si t'es à la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits. Qudsi, Qudsi, Qudsi. El-Quds, El-Quds, Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée. أبعدوني أبعدوني عن عمري نصبوا هذا الجدار بيننا لكي ينسى جمالك يا قدسي أركع أمامك كما في الأحلام ليقابلك قبلة السلام على أرضنا ستعود الحمامة وتعيش في أمن وسلام القدس القدس جيروزاليم comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire القدس القدس جيروزاليم terre sacrifiée terre sacrée terre que j'aime
C'est HK qui a fait cette très belle chanson sur Jérusalem. Juste avant de continuer, j'avais oublié de dire quelque chose sur la Syrie. Pour ceux qui doutent, qui se disent « mais quand même, ce régime, c'était l'intérêt des Palestiniens qui restent en place », allez voir le film sur le camp de Yarmouk, Little Palestine, qui se termine par la liste nominative des 250 Palestiniens qui sont morts de faim pendant le siège de Yarmouk fait par les troupes de Bachar el-Assad. Je vais parler de Gaza maintenant. 432e jour de guerre, 432e jour de génocide. L'attaque, elle avait commencé le 9 octobre, deux jours après le 7. L'invasion terrestre, elle avait commencé le 27 octobre. Tout le monde sait très bien que les pseudo-objectifs que l'occupant avait donnés, en finir avec le Hamas, c'est évidemment pas ça, puisqu'on comprend bien que ce qui est à l'œuvre maintenant depuis 14 mois, c'est un sociocide, c'est un génocide, c'est la destruction programmée de toute une société, de tout. Alors ils ont détruit tous les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est les hôpitaux du Nord qui sont dans une situation épouvantable. On vient de recevoir des vidéos d'un médecin de Palmède qui est à Gaza. Il est dans le Sud, il dit « là où je suis, ça va, on n'est pas dans une situation d'extrême urgence ». Mais à 3 km de là, il est impossible de passer. Et ce que nous recevons de là-bas, c'est des centaines de personnes qui sont sous les gravats. Et de temps en temps, les cris s'arrêtent parce qu'ils ne sont pas sortis des gravats. Ce sont des hôpitaux qui sont totalement hors d'état de fonctionner parce que tout a été bombardé, parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il n'y a plus de médicaments, parce qu'il n'y a plus d'instruments, parce que des médecins ont été tués. Et donc aujourd'hui, j'attire toute votre attention sur ce qui est en train de se passer dans le nord de Gaza. D'abord, il faut comprendre que l'armée israélienne a complètement fragmenté la bande de Gaza. Ils se sont installés très durablement dans ce qu'on appelle le couloir de Netzarim, qui était l'ancienne principale colonie à l'époque où il y avait des colonies à Gaza avant 2005. Mais ils ont complètement isolé la province nord de Gaza, c'est-à-dire Jabalia. Ne jamais oublier que c'est du camp de Jabalia qui était partie la première intifada en 1987. Jabalia, Beit Hanoun et Beit Laya. Et là, ils restent parce qu'une partie de la population a fui dans des circonstances épouvantables vers le sud. Mais ils restent une centaine de milliers de personnes. Ils crèvent de faim. La nourriture n'arrive pas, les médicaments n'arrivent pas, les secours n'arrivent pas, la défense civile, c'est un petit peu les pompiers à Gaza, n'arrivent pas. Et donc c'est 100 000 personnes qui sont actuellement en danger de mort immédiat et personne ne vient les secourir. Un tout petit peu plus au sud, tout ce qui était la ville de Gaza, qui avait 700 000 habitants avant le 7 octobre, il en reste un tiers, mais eux aussi très périodiquement, ce qui peut rester de bâtiments habitables explose. Et eux aussi essaient de fuir. Donc on est maintenant dans une situation où sur les 2 300 000 habitants qu'il y avait avant le 7 octobre, probablement 100 000 sont morts. Beaucoup sont dans un état où ils ne peuvent même plus fuir ou ils vont mourir parce qu'ils ne sont pas soignés. Mais on a maintenant 80% de la population qui est concentrée dans une zone qui couvre 10% de la bande de Gaza, qui comprend en gros Deir el-Bala, un tout petit peu au nord de Deir el-Bala, et qui comprend toute la bande côtière Al-Mawasi Canyonis et Al-Mawasi Rafah. Et dans les autres régions, j'ai dit là où c'était le pire, c'est-à-dire le nord, mais dans les autres régions, il y a des bombardements incessants, notamment à Rafah en ce moment. Et donc la population dans ces camps de toile continue d'augmenter avec des besoins immenses. Malgré cette situation désespérée, la résistance de la population se fait par des formes d'auto-organisation qui sont nées. Ces formes d'auto-organisation, c'est que dans chaque camp, il y a une direction qui est apparue. Là où il n'y a pas de direction, c'est vraiment des situations épouvantables. Et on a commencé à organiser, partout où c'est possible, des repas collectifs, une rescolarisation des enfants, une désinfection des camps, une aide psychologique qui est absolument indispensable. Il y a quelques petits endroits autour de Deir el-Balah où des paysans ont replanté. Et donc, je vous annonce qu'il y a déjà eu une récolte de choux et de tomates. C'est une situation extrêmement grave qui se passe parce que, comme dans toutes les situations d'occupation, et la France a connu ça pendant Vichy, entre 1940 et 1944, s'installe le marché noir, s'installe des mafias. Et donc il y a des petits groupes armés, souvent soutenus par l'occupant, qui attaquent les rares camions d'aide qui arrivent à passer la frontière. À propos de frontière, celle de Rafah avec l'Égypte est fermée. Et donc la seule voie pour passer, c'est ce qui s'appelle Kerem Shalom en hébreu, Abou Salem en arabe, mais qui donne sur Israël. C'est à l'endroit des trois frontières. Et donc, des rares camions arrivent à passer, pas tous, puisque mon association, l'Union juive française pour la paix, a porté plainte contre Israel Forever, dont les plusieurs militants et militantes, dont Nelly Kupfer, se sont fait photographier en train de bloquer les camions d'aide humanitaire justement à Kerem Shalom, et on a porté plainte pour complicité de génocide. Donc les rares camions qui arrivent à passer sont souvent attaqués, rançonnés par ces groupes de mafias qui après revendent à des prix énormes les marchandises, principalement la nourriture, mais pas que. Et donc les prix de tout ont littéralement explosé à Gaza. Et donc la lutte aujourd'hui, c'est pas seulement la lutte directement pour se produire pour pouvoir avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se protéger de l'hiver qui s'annonce terrible, mais c'est aussi pouvoir avoir des prix raisonnables pour pouvoir acheter les rares choses qui sont encore à la vente. Donc ça fait partie de l'action de l'Union juive française pour la paix. Je rappelle à tous nos auditeurs, nous aidons Gaza depuis maintenant 8 ans, depuis 2016, cette coopération qui n'est pas du colonialisme, c'est eux qui décident leurs besoins. Nous, on se charge d'avoir l'argent, de l'envoyer, de populariser ce qu'ils font. Cette coopération, elle a permis avant le 7 octobre des gigantesques réalisations chez les paysans du sud de la bande de Gaza, du sud-est. Et maintenant, depuis le 7 octobre, ça s'appelle Urgence Guerre à Gaza. Ce sont les produits de premier secours. Nous avons pu distribuer de nombreuses tentes, le prix des tentes ayant explosé. Pour l'hiver, ce sont des bâches que nous avons distribuées. Nous avons pu organiser des repas collectifs, rescolariser les enfants. Et là, c'est une énorme zone maintenant où on va organiser la scolarisation des enfants. Pour celle des petits, et lier la scolarisation et l'aide psychologique parce que ces enfants sont incroyablement traumatisés. Je rappelle que sur les morts identifiés sont 45 000, les disparus sont 12 000, les morts probables sont 100 000. La proportion de femmes et d'enfants est de 70%. Et donc, les Israéliens sont non seulement coupables de génocide, mais coupables d'organisation du génocide, puisque leurs dirigeants ont appelé ouvertement à tuer les femmes et les enfants. Je rappelle aussi qu'un certain nombre de dirigeants de l'extrême droite religieuse ont utilisé la Bible pour justifier ces crimes abominables. Ils ont comparé les Palestiniens à des Amalécites. Et dans la Bible hébraïque, il est écrit « Tue Amalek, tue les hommes, tue les femmes, tue les enfants, les bœufs, les ânes, les chameaux ». Et c'est ça qui est utilisé aujourd'hui pour justifier l'extermination de toute une population civile. Donc Gaza est en danger. Nous avons des difficultés à l'Union juive française pour la paix pour envoyer l'argent, mais nous allons y arriver. Nous avons des difficultés parce que notre banque française ferme notre compte, probablement sur ordre du gouvernement français. Et c'est une preuve éhontée de la complicité de l'Occident avec les génocidaires. Mais nous surmonterons cette histoire-là et nous arriverons toujours à remplir notre devoir de juifs solidaires avec le peuple palestinien. Je vais vous passer à nouveau de la musique.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, c'est une route qui passe à deux pas larges et lisses, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout montent leurs forteresses, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant, que peut un cœur qui bat. Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier, quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix.
C'est un chanteur suisse, hélas disparu, Michel Buller. Cette chanson, vous l'entendez dans le premier film de Roland Nurier, Le Char et l'Olivier. Il a passé d'autres chansons de Michel Buller dans le deuxième film, Il y a la Gaza. Et il est en train de préparer un nouveau film. J'espère qu'il sera aussi bon que les deux précédents. Dans les deux films de Roland, il y a l'avocat Gilles Devers qui parle longtemps du droit international, de ce qu'on fait aux Palestiniens. Gilles est mort il y a peu de temps. Il a été enterré il y a quelques jours à Lyon. Donc une pensée pour lui. Comme on parle de cinéma, une pensée pour un autre film très important, Northerland, qui raconte, qui est fait à la fois par un Palestinien bédouin de Massafariata, Bazel Adra et par un Israélien anticolonialiste, Yuval. Et ça raconte les années d'expulsion des paysans de Massafar Yatta, qui sont à 20 km au sud d'Hébron, qui sont expulsés parce que l'armée israélienne a décidé que leur village, qui existe depuis des siècles, devait disparaître pour servir de terrain militaire. Bien évidemment, les colonies qui sont là ne sont pas touchées. Je signale quand même que quand ce film a été primé à la Berlinale, donc le festival de cinéma à Berlin, mais que la municipalité de Berlin, quand elle a difficilement autorisé que ce film passe en salle, elle a voulu mettre un petit message sur le film, que c'était un film à tendance antisémite. Yuval s'est indigné, il a fait un procès, il a rappelé que toute sa famille était morte pendant le génocide nazi, et il a gagné. Mais on voit un petit peu le degré d'ignominie des complices aujourd'hui de l'État d'Israël. Je vais terminer cette heure en Palestine d'une façon très narcissique. Je vais parler de livres, alors de livres dans lesquels évidemment j'écris, il y en a même un qui est de moi. Le premier dont je vais parler, c'est un livre collectif qui s'appelle « Gaza, mort, vie, espoir ». Alors il sortira en librairie probablement début avril. Il est écrit à plusieurs mains. Il y a toute l'équipe qui, avec l'UJFP, mais pas que, travaille avec les solidaires de Gaza depuis maintenant des années. Alors les membres de l'UJFP, c'est Sarah Katz, qui a vécu 2 ans à Gaza, c'est Béatrice Sorès et moi-même qui sommes porte-parole de l'UJFP, mais il y a aussi Brigitte Chaland, qui a été plusieurs fois à Gaza, et il y a aussi Kamel Elias, qui est à la fois palestinien et français, et qui est agronome, et qui travaille avec nous sur tous ces projets. Et le sixième auteur, c'est Abou Amir, notre correspondant à Gaza. Il y aura énormément de ces textes et il y aura les textes d'autres Palestiniens avec lesquels on travaille, notamment Marcel Aledaoui de l'association Ibn Sina et Asma, qui est une professeure francophone. Voilà, pour tous ceux qui regardent le site de l'UJFP, vous retrouverez de très nombreux textes qu'on a classés de tout ce que, et des informations et des analyses de tout ce que nos camarades envoient. Mais on a essayé de redécrire Gaza avant le 7 octobre et surtout depuis le 7 octobre, de rendre sa dignité à ce peuple et à cette terre martyrisée, à raconter ce que ça veut dire perdre toute sa famille, son frère, les enfants et la femme de son frère, être déplacé de très nombreuses fois, pouvoir témoigner de l'auto-organisation des camps, comment petit à petit ils ont retrouvé à la fois la nourriture, les vêtements, des soins minimaux, et comment dans les pires circonstances, c'est le collectif qui permet à un peuple de survivre. Donc voilà, ce film, ce livre, je rappelle, il va s'appeler Gaza, mort, vie, espoir. Il va sortir aux éditions Rive-Neuve, probablement début avril. Le deuxième livre, je vais vous en parler un tout petit peu plus longtemps, ça va être un nouveau livre de moi-même, donc Pierre Stamboul. J'avais écrit en 2012 Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement. J'avais écrit avec Sarah Katz, en revenant de Gaza en 2016, Chronique de Gaza. On avait écrit un peu tous les internationaux qui avaient été à Gaza. On avait écrit Jean de Gaza en 2018. J'avais écrit en 2014, et il a été réactualisé il y a 2 ans, Le sionisme en question. J'avais écrit Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement. Et puis la Nakba ne sera jamais légitime. Mes éditeurs, c'est Akrasi, ce sont des communistes libertaires, et ça a été Sileps. Et là, le nouveau livre qui sort, je le reçois par la poste demain, donc dès demain, j'en aurai 300 chez moi, et il va sûrement sortir en librairie en janvier. Il coûtera 15 euros. J'ai pris un titre totalement neutre, ça s'appelle « Du projet sioniste au génocide ». Et je vais un petit peu décrire ce qu'il y a dedans. Il répond un petit peu aux 60 et plus interventions publiques, conférences ou formations que j'ai faites depuis le 7 octobre. C'est-à-dire j'essaie dans toute une moitié du livre de défaire, de déconstruire toute une série d'idées reçues qui ont amené à un Israël tout puissant et criminel et qui ont amené au génocide en cours. La première idée, c'est que les sionistes ont justifié leur entreprise et la création de l'État d'Israël en disant « Il y a eu autrefois dans la Bible, c'est décrit dans la Bible, un grand royaume unifié. Les Juifs ont été chassés et mis en exil pendant 2000 ans et ils rentrent chez eux. » Donc, je rappelle, dans ce livre-là, j'ai mis 450 notes. Je n'affirme rien gratuitement. Donc, je déconstruis cette histoire. La Palestine de l'Antiquité a toujours été une terre multiple. Les épisodes sur lesquels les colons s'appuient pour justifier les massacres qu'ils font en Cisjordanie, notamment la conquête de Canaan par Josué, n'ont pas existé. Ce ne sont pas des épisodes historiques. Il n'y a eu ni entrée ni sortie d'Égypte. Le grand royaume unifié de Salomon et David n'a probablement jamais existé. Jérusalem était un petit village de l'âge de pierre à cette période. Et ce qui est la réalité historique, c'est que habitaient dans cette région des peuples multiples, des religions multiples, et on n'avait probablement pas la même langue et pas la même religion à quelques kilomètres d'écart. Les sionistes affirment que quand Titus a détruit, donc l'empereur, le futur empereur romain, a détruit le grand temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de juifs se seraient répandus à travers le monde connu, notamment le monde méditerranéen, et que les juifs d'aujourd'hui seraient leurs descendants. Je déconstruis cette histoire. Les juifs d'aujourd'hui sont très largement des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai absolument pas le type proche oriental. Et les descendants des judéens de l'Antiquité sont essentiellement les Palestiniens qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, et les trois à la fois, pendant pratiquement 1300 ans. Il y aura en Palestine 80% de musulmans de religion sunnite, 10 à 15% de chrétiens, environ 5% de juifs qui vivaient en bonne entente parce que c'était les gardiens des lieux saints. Et toute cette population est très majoritairement les descendants des judéens de l'Antiquité. Les sionistes essaient de dire que l'antisémitisme, c'est le monde arabe et c'est les musulmans. Je déconstruis aussi cette idée reçue. Il y a eu l'anti-judaïsme chrétien. Ce sont les chrétiens qui ont décrété contre les juifs toute une série de stigmatisations et d'interdits. La stigmatisation la plus grave étant de les accuser d'être le peuple déicide. Et c'est dans le monde chrétien qu'ont eu lieu des moments très tragiques. Les massacres et l'expulsion d'Espagne au XIVe siècle, Strasbourg où on va brûler 2000 juifs accusés de propager la peste noire au XIVe siècle, les massacres en Ukraine du Kozak Khmelnytsky au XVIIe siècle. Il y aura, s'ajoutant à l'anti-judaïsme chrétien au XIXe siècle, l'antisémitisme racial, l'invention des races. Les races, ça n'existe pas. Il n'y a pas de race aryenne, il n'y a pas de race sémite. Mais ceux qui inventent les races à un moment où l'Europe domine le monde vont inventer des races inférieures dans le monde dominé, les Arabes, les Noirs, les Indiens. Et en Europe, les races inférieures seront les Juifs et les Tziganes. Donc cette persécution va aboutir au génocide nazi. Mais encore une fois, cette persécution des Juifs, c'est l'Europe, c'est au départ les chrétiens, ce ne sont pas les Arabes et ce ne sont pas les musulmans. Troisième idée que je déconstruis, l'idée que c'est la religion juive qui serait à la base de toute cette horreur. Historiquement, la religion juive était une religion messianique et non territorialiste. les Juifs étaient punis par Dieu, donc attendaient le Messie, et ils pouvaient étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où. Ils n'avaient pas besoin de territoire. Il était même interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Et l'an prochain à Jérusalem, ça voulait dire « nos pensées vont vers Jérusalem », ça ne voulait pas dire « je vais à Jérusalem, je chasse les autochtones, j'y fais un État ». Et le peuple élu, c'était celui qui avait le plus de devoirs et pas celui qui avait le plus de droits. C'est la conquête de la Cisjordanie en 1967 qui a transformé majoritairement la religion juive en une religion coloniale. Donc c'est le colonialisme qui a créé ça, c'est pas la religion qui a créé le colonialisme. Autre idée que je déconstruis, l'idée que le sionisme serait un mouvement de libération nationale, non. Le sionisme, c'est une réaction à l'antisémitisme, mais c'est la pire des réactions, puisque le sionisme a décrété il y a 120 ans que juifs et non-juifs ne pouvaient pas vivre ensemble et que la seule solution, c'était de créer un État et de se séparer de l'humanité. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza aujourd'hui si vous n'avez pas dans cette idée majoritaire maintenant en Israël qui est « ce pays est à nous, rien qu'à nous ». Nous n'en avons rien à foutre de ce que vous pensez et nous chasserons les intrus. Mais cette idée, elle est née même du sionisme. Autre fausse idée que je déconstruis, le sionisme n'a jamais combattu l'antisémitisme. Il s'est nourri de l'antisémitisme. Il a utilisé les antisémites en leur disant « vous et nous, nous avons les mêmes intérêts qu'un maximum de juifs quittent l'Europe ». Et cette complicité entre sionistes et antisémites, elle date de Theodor Herzl. Elle date de la fin du XIXe siècle. Le sionisme est un colonialisme, et c'est un colonialisme très particulier, un colonialisme de peuplement qui n'a jamais voulu exploiter l'indigène, mais qui a tout de suite voulu nier son existence et sa dignité, l'expulser et le remplacer. Le sionisme est un nationalisme, mais un nationalisme très particulier. S'il a copié sur les nationalismes européens l'idée de l'État ethniquement pur, c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Il est faux de croire que l'État d'Israël est une réponse au génocide nazi. Les institutions sionistes qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant le génocide nazi. Elles sont largement citées dans mon livre. Et parmi ces institutions, il y a eu la Histadrut, le syndicat sioniste, dont l'article numéro 1 des statuts était la défense du travail juif. Et c'est ce syndicat-là qui a créé la Compagnie des Eaux, la Compagnie des Travaux Publics, la Compagnie de Navigation. Bref, Israël, et surtout qui a créé la Haganah, l'ancêtre de Tsahal. Bref, Israël avait déjà un État, 30 ans, 40 ans, avant la création officielle de l'État. Je déconstruis l'idée qu'il existerait une gauche sioniste. Le courant social-démocrate a été majoritaire dans le sionisme dès les années 20 parce qu'il fallait une colonisation collective pour conquérir la Palestine. Mais il n'y a pas un seul crime contre le peuple palestinien dans lequel il n'ait pas joué un rôle majeur. En particulier, il n'y a plus aucun débat historique sur la Nakba, sur la catastrophe. C'était un nettoyage ethnique prémédité qui a été ponctué de nombreux crimes de guerre, et celui qui organise ce nettoyage ethnique, c'est David Ben-Gourion, socialiste avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, fondateur de l'État d'Israël. Je cite certaines de ses phrases qui expliquent bien les choses. « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes, donc c'est le déni. Les vieux mourront, les jeunes oublieront. » Donc c'était l'idée que l'expulsion des Palestiniens était bien définitive et qu'ils ne devaient pas rentrer, et d'ailleurs, Israël a violé, dès le vote de la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés, a violé cette résolution. C'est également cette gauche sioniste, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, qui fait la conquête de 1967 et qui initie la colonisation. Et aujourd'hui, parmi les personnalités épinglées par la Cour internationale de justice, il y a Yitzhak Herzog, issu du Parti travailliste, qui a justifié le meurtre des femmes et des enfants. Dans mon livre, je parle de la droite sioniste en expliquant qu'elle n'a jamais été une droite libérale ou conservatrice, qu'elle a été une droite fasciste dès le début, que son fondateur, Vladimir Jabotinsky, était un grand ami de Mussolini, que son secrétaire particulier était le père de Netanyahou, Bencion Netanyahou, et que Jabotinsky et sa milice, le Bétard, s'entraînaient en Italie fasciste à la fin des années 30. Ces gens-là ont toujours été partisans de méthodes expéditives, et donc aujourd'hui, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dont ils se rendent coupables, il faut savoir que cette violence extrême n'est pas née récemment. Elle a commencé à exister il y a 120 ans, que les fondateurs de ce courant, Menachem Begin et Yitzhak Shamir, ont été accusés à l'époque d'être des terroristes. Yitzhak Shamir a même été un collabo parce qu'il assassinait des soldats britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je parle dans mon livre de Gaza, incroyablement diffamé, du Gaza que j'ai vu lors de mes deux séjours en 2013 et 2016, une société hautement éduquée, une société incroyablement pluraliste, une société où tous les efforts allaient vers l'idée de produire, de vivre de sa production, et une société qui a été anéantie après le 7 octobre, mais qui essaie dans les pires des conditions de survivre. Ils revivent aujourd'hui ce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ont vécu en 1948. Je termine, puis comme ça va être l'heure, la fin de mon livre, c'est comment on en sort. Alors, personne n'a la solution, et moi pas plus qu'un autre. Mais je dis clairement, Oslo a été une supercherie. À Oslo, la seule chose qu'on a signée, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. La solution à deux États, elle n'est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce que toute personne qui va là-bas se posera la question où est la frontière. Elle n'est pas souhaitable parce que fondamentalement, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés et que la solution à deux États ne s'adresse pas aux 6 millions de personnes qui ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies des réfugiés, et qui demandent à pouvoir rentrer là où leurs parents ou grands-parents ont été expulsés. Donc une solution qui ne règle pas la question des réfugiés n'en est pas une. Une solution à un État, ce serait sans doute le plus juste. Il n'y a pas un État qui n'est pas l'État de tous ses citoyens n'est pas acceptable. Mais elle n'a pas de base sociale aujourd'hui, ni en Israël, ni en Palestine. Alors nous, à l'Union juive française pour la paix, nous demandons qu'on applique le droit international à la Palestine. Ça veut dire la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza, démantèlement du mur. Ça veut dire l'égalité des droits entre tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine ou leur religion. Et ça veut dire la justice, le droit au retour des réfugiés, le jugement des criminels de guerre. Netanyahou veut pas seulement détruire Gaza, il veut détruire le droit international. Donc aujourd'hui, défendre le droit international, ça doit être notre priorité à tous. Je rappelle le titre de mon livre, « Du projet sioniste au génocide », édition Acrassi, 15 euros. Et j'en ai chez moi 300 dès demain et il sera en librairie le mois prochain. Merci. Shut up.